Bienvenidos a este informativo de Radio
France International. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions langues étrangères de RFI, votre radio, dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec Raphaël Moran de la rédaction en espagnol.
Buenas noches, Philippe.
Pour la rédaction vietnamienne, Lê Thu Hằng.
Si, ciao.
Et Ligia Anjos de la rédaction portugaise.
Bonne nuit.
Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Les vaccins ne signifient pas zéro Covid, c'est ce que dit ce soir l'Organisation Mondiale de la Santé, sachant que le coronavirus a contaminé plus de 65 millions de personnes dans le monde et en a tué plus d'un million et demi. La pandémie recommence à accélérer dans le monde alors que les projets de vaccination massive se précisent dans plusieurs pays. Beaucoup de questions se posent sur cette manière, sur la manière dont doit être menée cette campagne de vaccination. Première question, est-ce que le vaccin doit être obligatoire, Raphaël Moran?
Eh ben, la question se pose comme ça en Amérique latine, avec des positions extrêmement variables d'un pays à l'autre. Sur un continent extrêmement touché par l'épidémie, notamment dans des pays comme le Brésil, le Mexique. Au Mexique, les autorités ont prévenu que la vaccination ne serait pas obligatoire. Il s'agit plutôt de persuader la population, de pas la brusquer. Même chose dans les autres pays de la région, Pérou, Uruguay, Salvador et en Argentine aussi, où le ministre de la Santé assure qu'en aucune manière le vaccin ne sera obligatoire. Nous ne sommes pas en position d'obliger les gens à se vacciner car le vaccin contre le Covid-19 qui sera appliqué pour la première fois, c'est l'argument du ministre. Donc on attend encore d'acquérir de l'expérience sur son application.
Dans certains pays, la défiance face au vaccin atteint des niveaux élevés. C'est le cas en France, c'est le cas en Espagne également, où entre 40 et 50% de la population n'est pas prête à se faire vacciner. Qu'en est-il en Amérique latine, Raphaël?
Alors, il y a une étude intéressante dans la revue médicale The Lancet, publiée en septembre, et qui a comparé les niveaux de confiance de la population envers les vaccins. C'est une étude qui a été menée dans 149 pays en 2015 et en 2019. Donc, on voit l'évolution. Et les chiffres qui sont disponibles sur le site de la revue sont assez édifiants. La France, par exemple, détient le record de la défiance vaccinale. C'est comme ça qu'on appelle ce sentiment de crainte, de peur, de manque de confiance envers
les
vaccins.
C'est quand même le pays du vaccin, c'est quand même la France avec Louis Pasteur.
Exactement. Et en revanche, les pays d'Amérique latine affichent des taux de confiance envers les vaccins assez élevés, voire proches de 90-100% en Argentine, par exemple. Cela n'empêche pas les débats, les doutes, avec une question qui revient souvent, Philippe, une question récurrente en ce moment, comment peut-on savoir que ce vaccin contre le Covid est sûr alors qu'il a été développé et testé en quelques mois seulement au lieu de plusieurs années, comme c'est le cas d'habitude, Et ben, on a posé la question à une spécialiste française en immunologie, Brigitte Autran, professeure émérite à la Sorbonne, et selon elle, il n'y a pas à s'inquiéter. On l'écoute.
Donc pourquoi on est allé très vite ici? C'est parce que, d'une part, il y a des technologies nouvelles qui permettent d'aller très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a isolé le gène d'un agent infectieux, eh bien, tout de suite, on peut faire un vaccin. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Et puis d'autre part, il y a eu une coalition internationale, en grande partie pilotée par l'OMS, pour demander à réduire au maximum tous les délais qui se passaient entre les différentes phases de développement des vaccins. Et c'est généralement pour ça qu'il faut des années, parce qu'il faut du temps pour obtenir des fonds. Il faut du temps pour avoir l'accord des agences réglementaires, parce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de raison de se presser. Là, il y a eu d'une part beaucoup de fonds qui ont été mis sur la table, et d'autre part un consensus pour que les experts travaillent vite et bien. Il n'y a pas eu de court-circuit des étapes critiques, en particulier des étapes de vérification de la sécurité des vaccins.
Alors tout le monde ne sait pas cela sur la sécurité des vaccins, et donc il y a des doutes, et face à la montée des doutes, certains dirigeants défendent l'obligation vaccinale, et c'est le cas au Chili, Raphaël Moran.
Oui, le ministre de la Santé, Enrique París, a annoncé que le vaccin serait obligatoire pour certains groupes à risque. risques de la population, comme les personnes âgées, les malades chroniques, le personnel de santé, ce qui fait quand même 5,8 millions de personnes au total. Et au Brésil, une autre situation assez intéressante a lieu, c'est un affrontement en fait entre le gouvernement fédéral et le gouverneur de Sao Paulo, qui sont sur une position très différente. Jair Bolsonaro, le président, a déjà prévenu qu'il refusait de se faire vacciner. Le vaccin contre le Covid-19 sera tout de même gratuit et donc optionnel pour les Brésiliens. Par contre, à Sao Paulo, les autorités locales, le gouverneur, estiment qu'il faut rendre obligatoires les vaccins. Ça n'aurait pas de sens que certains se vaccinent et d'autres pas, tout simplement parce que ceux qui ne se vaccinent pas risquent de s'infecter et donc de continuer à propager le virus. L'Organisation Panaméricaine pour la Santé, l'OPS, la branche de l'OMS pour le continent américain, est d'ailleurs plutôt pour le caractère obligatoire de la vaccination, avec un argument, un vaccin, ça sert à se protéger soi-même et aussi les autres.
Le Vietnam, les Tuang, le Vietnam est connu pour avoir bien géré, plutôt bien géré, la situation dès le début de la pandémie, mise en place d'une quarantaine obligatoire pour tous ceux qui entraient par exemple dans le pays. Au final, il n'y a eu officiellement que 35 morts et près de 1400 cas de Covid-19. Du coup, est-ce que la question du vaccin se pose malgré tout au Vietnam ?
Oui, alors, donc, d'abord, il faut dire que le succès de la gestion du Covid au Vietnam doit un système testé, tracé, isolé, donc une des mesures qui permettent de couper la chaîne de contamination. Et le gouvernement vietnamien continue cette voie pour pouvoir se concentrer à l'économie, plutôt se rouer vers le vaccin. D'abord, vu le faible nombre de contaminations et le succès de la gestion, le Vietnam n'a pas tout de suite besoin de vaccin. Et d'ailleurs, il comprend qu'il est impossible de se procurer du vaccin en ce moment parce que des premiers milliards de doses de vaccins ont été partagées entre les pays occidentaux, par exemple les États-Unis ou bien l'Union européenne.
Et l'Afrique de tout ça, et bien la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique exhorte les gouvernements à mieux se préparer à la campagne de vaccination. Ligia Anjos, les pays luso-africains, est-ce qu'ils sont prêts ?
Philippe, il faut savoir que la plus grande campagne de vaccination de l'histoire de l'Afrique est sur le point d'être lancée. Les gouvernements africains seront dans l'urgence pour intensifier leur préparation. Il y a de la méfiance par rapport à ces nouveaux vaccins, comme partout dans le monde, car il n'y a pas encore de validation officielle par l'OMS et il manque une stratégie pédagogique auprès de la population locale pour déclencher cette campagne de vaccination. Voyons par exemple ce qui se passe en Guinée-Bissau où les groupes les plus exposés et les professionnels de santé auront un accès prioritaire au vaccin. Toutefois, il est encore trop tôt pour connaître la date d'arrivée des vaccins, comme nous l'explique Magda Rubalo, haute commissaire de la lutte contre la Covid-19 à Bissau.
A Guiné-Bissau está naturalmente a preparar-se para encomendar vacinas contra a Covid-19 e um grupo...
Alors, que dit cette responsable chargée de la lutte contre le coronavirus en Guiné-Bissau?
Magda Rubalo nous dit que la Guiné-Bissau se prépare logistique et techniquement pour pouvoir commander les vaccins contre la Covid-19. Et pour cela, il faut mettre en place un cadre exigé par l'OMS avant le 7 décembre. La haute commissaire de la lutte contre la Covid-19 à Bissau nous dit encore qu'il existe un dispositif international, COVAX, créé pour soutenir les pays économiquement plus fragiles, mais aussi pour assurer un accès juste et équitable aux vaccins à l'échelle mondiale. Le COVAX a identifié 92 pays, notamment la Guinée-Bissau. Tout indique que ce dispositif pourra permettre, dans un premier temps, une protection à hauteur de 20% de la population africaine.
Mais pour garantir cette protection à 20% de la population africaine, il y a forcément un prix à payer, Ligia.
Oui, comme toujours, cette fois-ci avec le soutien de la Banque mondiale qui a déployé une enveloppe de 12 milliards de dollars jusqu'à juin 2021 pour faciliter la vaccination d'un milliard de personnes dans les pays en développement. Cette aide permet surtout d'apporter des fonds et une assistance technique à la distribution des vaccins à grande échelle. Les vaccins contre la Covid-19 arrivent bientôt sur le marché et les pays en développement sont inquiets, évidemment, car ils espèrent que les précommandes de millions de vaccins par les pays les plus riches n'empêcheront pas l'approvisionnement en Afrique. Alors, ces derniers jours, les pays se sont précipités pour trouver des financements. C'est le cas du Cap-Vert. Écoutons le ministre des Finances capverdien.
Ainda ontem tivemos a informação que o Banco Mundial já acordamos 5 milhões de dólares americanos para o programa de vacinação para todos os Cabo
Verdeanos. Ele s'appelle Olavo Correa e qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ce ministre des Finances du Cap-Vert nous dit que la Banque Mondiale a versé 5 millions de dollars au Cap-Vert afin que le pays puisse préparer la campagne de vaccination et il est encore possible que l'Union africaine aide le pays à hauteur de 15 millions de dollars. Avec 20 millions, ce petit pays de 500 000 habitants pourra gagner, garantir un vaccin pour toute sa population.
Qu'est-ce qu'il en est maintenant pour l'Angola ?
Il va recevoir bientôt, les dates sont encore incertaines, 12 millions de vaccins contre la Covid-19. Selon le secrétaire d'État à la santé publique, Franco Mufinde, les premiers vaccins seront destinés aux personnes les plus fragiles, comme les personnes âgées et aux professionnels de santé. Cette semaine, le président angolais, João Lourenço, a défendu lors d'une vidéoconférence des Nations Unies une action collective et solidaire entre les pays pour surmonter ce défi.
Autre pays luso-africain, c'est le Mozambique.
Exactement, Philippe. Le pays va recevoir 6 millions de vaccins. Permettant de couvrir les 20% de la population, selon cette initiative, le COVAX, le gouvernement estime qu'une fois que l'efficacité des vaccins en phase d'élaboration sera confirmée par l'OMS, tout le pays sera prêt à mettre en œuvre le programme national de la vaccination. Néanmoins, l'exécutif mozambicain appelle à faire attention aux fausses illusions quant à une solution rapide contre la COVID-19.
Alors, ce mécanisme COVAX créé donc par l'Organisation mondiale de la santé en avril dernier, pour garantir un accès mondial aux vaccins contre le Covid-19, concerne également sur COVAX le Vietnam, les Tuang.
Oui, c'est ça, exactement. Le Vietnam, en tant qu'un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, serait soutenu par le système de garantie de marché. Or, on sait qu'en 2021, il serait peu probable que tous ces pays à revenus intermédiaires, y compris le Vietnam, obtiennent le vaccin du mécanisme COVAX. Et le Vietnam a aussi commandé le vaccin russe Sputnik V, entre 50 et 150 millions de doses, et auprès de plusieurs laboratoires américains. Et là aussi, il ne faut pas trop espérer pouvoir en recevoir d'ici fin de 2021.
Alors, précision sur le vaccin russe, il faut dire Sputnik V, c'est ce que nous dit notre correspondant à Moscou. J'ai appris ça cet après-midi. Les Tuang, pourquoi est-ce que le Vietnam n'a pas commandé de vaccin à son voisin chinois?
Alors, c'est vrai, dans les discours officiels, les dirigeants vietnamiens n'ont pas évoqué la commande du vaccin chinois. La première raison serait l'opacité des autorités chinoises dans la gestion de la COVID-19, puis la mise en usage rapide du vaccin. En un mot, il craigne l'efficacité, inefficacité du vaccin chinois. Et en fait, les Vietnamiens ne font confiance qu'à la médecine traditionnelle chinoise, mais pas à sa médecine moderne. Et une autre raison est que le Vietnam est en conflit de souveraineté en médecine méridionale avec la Chine. Et Pékin réclame plus de 80% de la superficie de ces zones maritimes importantes pour le commerce mondial.
Oui, et la politique se niche partout, parce que pour le gouvernement vietnamien, utiliser le vaccin chinois constituerait finalement une nouvelle dépendance envers la Chine, envers Pékin.
Voilà, c'est ça, c'est en fait, avec peut-être une obligation, quand on utilise en fait du vaccin chinois, c'est de ne pas franchir certaines lignes rouges, notamment la médecine méridionale. C'est comme l'analyse de Grégory Prolin, un chercheur basé à Singapour. Et d'ailleurs, le Vietnam effectue leur propre recherche de vaccins contre le Covid-19 grâce à ses expériences liées aux vaccins contre certaines maladies infectieuses. Deux de ces quatre projets, dont un en collaboration avec un laboratoire anglais, seront en essai de phase 1 fin d'année. Il faudra donc attendre fin 2021 ou au début de 2022 pour pouvoir avoir le vaccin Made in Vietnam si tout se passe bien.
Les Tuang, vu la demande du vaccin qui ne cesse d'augmenter, on pourrait imaginer quand même que le Vietnam déterminera un plan de priorité, comme c'est le cas dans bon nombre d'autres pays.
Voilà, bien sûr, parce que sur cette question, le médecin Tiong Ukraine du service des infections de l'hôpital pour enfants 1 à Ho Chi Minh Ville a expliqué au micro de notre rédaction.
Que vous a dit ce professeur de médecine?
Alors, à son avis, il est susceptible de faire des priorités comme la stratégie de plusieurs pays dans le monde, c'est-à-dire que privilégier dans un premier temps les employés de la santé. Mais ce n'est pas un choix immédiat car le Vietnam est un pays émergent. Il va attendre à ce que le prix du vaccin baisse. Du côté du secteur privé, il est possible que des sociétés ou cliniques chercheront à se procurer du vaccin quand quand l'offre devient plus abondante, pour proposer la vaccination payante à la population. Et malgré le prix élevé, de nombreux Vietnamiens sont prêts à se vacciner ou faire vacciner leur enfant. Si l'État n'a pas de plante de vaccination de masse, des gens peuvent se débrouiller de cette manière.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans Accent du Monde sur ce vaccin. Petite devinette, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Sputnik V, donc une lettre, et non pas un chiffre, Raphaël Morane, vous avez une idée?
V pour vaccin?
Exactement, ou bien pour les plus taquins?
Victoire.
Vladimir Poutine. Vous écoutez RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Faisons maintenant un focus sur les zones vers lesquelles vous diffusez les uns les autres, rédaction en espagnol, en vietnamien et rédaction portugaise. Intéressons-nous tout d'abord à la rédaction en espagnol avec ce qui se passe à Cuba, à La Havane plus précisément, où a eu lieu une manifestation plutôt inédite. Raphaël Morane, elle mobilisait cette manifestation des artistes qui demandaient plus de liberté d'expression.
Oui Philippe, tout a commencé avec l'arrestation et la condamnation d'un rappeur amateur, Denis Solis, début novembre. Un policier s'était introduit chez lui, le rappeur l'avait filmé et insulté. Ce rappeur a ensuite écopé de 8 mois de prison pour outrage à agent. Une condamnation qui a été considérée, qui a été vue comme injuste. Elle a réveillé un mouvement d'indignation assez spontané d'un groupe d'artistes cubains pour demander sa libération. Une dizaine de personnes, donc surtout des artistes indépendants, se sont réunis autour d'un artiste assez connu à Cuba qui s'appelle Luis Manuel Otero et se sont réunis dans une maison à La Havane pour faire une grève de la faim jusqu'à ce que la police les déloge la semaine dernière sous prétexte que ce regroupement représentait un danger pour la propagation du Covid.
Alors, tout aurait pu s'arrêter là sauf que le mouvement a pris de l'ampleur.
Oui, parce que l'évacuation assez musclée des 14 artistes, certains sont allés en prison, de ce collectif autoproclamé San Isidro, donc du nom du quartier où ils menaient cette grève de la faim, a abouti à ce que des centaines de personnes ont organisé un sit-in devant le ministère de la Culture. Donc la mobilisation a gonflé, en fait. Et ça, c'est totalement inédit à Cuba, où les manifestations d'opposants sont rares. Là, ils ont reçu le soutien de personnalités du monde artistique, comme l'acteur Jorge Perrogoria, qui est une vraie star à Cuba, de Tania Bruguera également, qui est une performeuse, une artiste assez contestataire, connue pour des mises en scène assez extravagantes pour critiquer le pouvoir. Et le plus inédit, Philippe, c'est que une délégation de 30 artistes, de 30 représentants, a été reçue au ministère de la Culture.
Mais alors, pour dire quoi? Pour réclamer quoi? Quelles étaient leurs revendications?
Alors la rencontre a duré plusieurs heures et ces artistes ont demandé d'abord des informations sur les arrestations de plusieurs d'entre eux et pour revendiquer le droit à la critique, à la liberté de création, à la liberté d'expression. Elle existe à Cuba, il y a des espaces mais ils sont très limités et surtout les artistes critiques sont pour la plupart d'entre eux interdits de se produire dans les théâtres, dans les cinémas, ils ne figurent pas dans les productions audiovisuelles qui sont contrôlées et financées par l'État. Ils sont donc marginalisés. Leur musique ne passe pas sur les ondes, par exemple, des radios cubaines. Les rappeurs ou les chanteurs, les musiciens qui sont un petit peu critiques, ne sont pas soutenus par les agences publiques. Il faut savoir que tout est étatique à Cuba. Il y a même une agence nationale du rap, par exemple. Voilà, quand on est rappeur, il faut faire un peu allégeance à l'État, en fait.
Mais gouvernemental.
Exactement, si on veut travailler, être financé et puis pouvoir faire des tournées. Et sans ça, on reste un petit peu dans son coin et on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc ça, c'est ce système que critiquent en fait ces artistes-là. Et pour les plus subversifs d'entre eux, ils s'exposent carrément à un harcèlement des autorités, voire à l'emprisonnement pour certains. Donc la délégation d'artistes a également remis sur la table le décret 349, c'est un décret qui est entré en vigueur il y a exactement un an et qui soumet donc les toutes les productions artistiques à une censure. Donc il est interdit par exemple d'utiliser des symboles patriotiques dans des œuvres d'art à des fins de critique ou de satire. Et les peines encourues peuvent aller jusqu'à la confiscation du matériel de production ou le retrait de l'autorisation de la licence de travailler en tant qu'artiste.
Donc modification de ce décret ou peut-être retrait de ce décret 340 demandé par le comité San Isidro. Et à l'arrivée, est-ce qu'il a obtenu des concessions?
Alors pour l'instant, rien de concret, mais le dialogue s'est ouvert et c'est déjà énorme dans un pays où les autorités n'ont pas l'habitude de discuter avec des collectifs ex nihilo comme ça, qui font des occupations dans la rue. Le ministère de la Culture s'est tout de même engagé à examiner le sort du rappeur dont on parlait au début, qui a été emprisonné. Et le ministre de la Culture a même promis de recevoir une délégation un petit peu dans les jours suivants. Et finalement, ce vendredi, les autorités cubaines ont fait volte-face. Le dialogue est rompu au motif que parmi ce collectif d'artistes, il y aurait des personnes subventionnées par les États-Unis, par Washington. C'est un petit peu l'accusation récurrente du régime cubain quand il y a des voix dissidentes qui s'élèvent.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette manifestation inédite à Cuba avec Raphaël Moran de la rédaction en espagnol de RFI. À présent, dans Accent du Monde, la future diplomatie américaine à l'endroit du Vietnam. Sachant que le gouvernement vietnamien attend jusqu'au 30 novembre pour féliciter le président élu, qui est John Biden. Les Tuang, de la rédaction donc vietnamienne, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps?
Alors, le président Donald Trump est très connu au Vietnam, il faut dire ça. D'après un sondage, plus de 80% des Vietnamiens l'ont soutenu pour un second mandat. Et Benoît de Tréglaudet, un chercheur français interviewé en novembre dernier par notre rédaction, a expliqué que sous la présidence de Donald Trump, les Vietnamiens ont pu parler haut et fort de ses positions contre les revendications de souveraineté des Chinois en mer de Chine méridionale.
Alors, il faut se souvenir que pour la première fois en juillet dernier, les États-Unis avaient rejeté les revendications de la Chine et avaient appelé à respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en mer de Chine méridionale, justement.
Voilà, c'est exactement ce que défendent quatre pays de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie, en conflit de souveraineté avec la Chine. En 2020, la marine américaine a effectué un nombre de records d'opérations de libre de navigation, qui s'appelle FONOF, en mer de Chine méridionale. Un exemple évoqué par un journaliste de l'Association des journalistes indépendantes du Vietnam lors d'une interview avec notre rédaction peut illustrer cette remarque.
La teneur de ce témoignage.
Alors, indice Kim Comtas auprès des jeunes Vietnamiens. Beaucoup d'entre eux souhaitent que Donald Trump soit réélu, car il est capable d'empêcher la résurgence chinoise, car celle-ci est malsaine et déloyale. On dirait que cette malhonnêteté détruirait l'économie mondiale et M. Trump veut l'empêcher. Donc, il faut dire que les relations entre le Vietnam et les États-Unis s'améliorent sous la présidence de Donald Trump. D'habitude, le gouvernement vietnamien félicite le président élu américain dès que le résultat définitif est prononcé, mais ce n'est pas ce cas cette fois. Il aurait voulu attendre la confirmation des résultats dans les états pivots avant de féliciter Joe Biden et pour ne pas vexer le président Trump, même sans le dire.
Trump va s'en aller, Biden va arriver. Qu'est-ce que ça va changer?
Alors en fait, on pense qu'il y a aussi une continuité de la politique en Asie du Sud-Est mise en place par Donald Trump et sous l'administration Biden. Et c'est ce que pressentent plusieurs chercheurs, que la stratégie de confrontation des États-Unis vers la Chine restera largement inchangée sous Biden, au moins pendant deux premières années de son mandat. Donc il faut rappeler que la stratégie du pivot vers l'Asie, que mène avec détermination l'administration Trump, et la continuité de la stratégie planifiée et débutée sous Obama.
Alors les pays de l'Asie du Sud-Est se trouveront au centre de cette rivalité sino-américaine dont vous parliez, notamment en mer de Chine méridionale. Pourtant, ils n'ont aucune intention de choisir leur camp.
Voilà, exactement ça. a pas, en fait, on va dire qu'avec l'administration de Joe Biden, a pas du changement de ton et de discours, comme évoque souvent en ce qui concerne la politique étrangère de Joe Biden. Les États-Unis seraient plus présentes dans les réunions de haut niveau en Asie du Sud-Est. Par exemple, le sommet annuel de l'ASEAN, ça veut dire que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, pour mettre davantage l'accent sur le renforcement des relations bilatérales. Le président Trump a souvent manqué ces événements ces dernières années.
Ben on verra bien ce que fera l'administration de Joe Biden et bien évidemment la rédaction vietnamienne de RFI suivra tout cela de très près. Merci à vous les Tuang. Intéressons-nous maintenant au fait que le Portugal a décrété un jour de deuil national en hommage au philosophe et essayiste portugais qu'est Eduardo Lourenço, décédé à l'âge de 97 ans à Lisbonne. Lydia Anjos, de la rédaction en portugais, cet homme est connu comme étant l'intellectuel qui a déchiffré l'énigme portugaise, c'est-à-dire...
Exactement, Philippe. Eduardo Lourenço a passé la plus grande partie de sa carrière en dehors de Portugal, notamment ici en France, pendant presque 50 ans. De retour à son pays natal ces dernières années, ce philosophe est aujourd'hui considéré comme l'un des plus sages et pertinents interprètes des réalités de notre société.
Un homme dont la pensée et la sagesse ne laissent personne, absolument personne indifférent.
Exactement, Philippe. Personne. Le professeur Lourenço nous avait accordé une interview lors d'un hommage à son œuvre ici à Paris, à la Fondation Carlos Gulbenkian en 2013, il parlait justement d'une façon de vivre et de penser, celle qui consiste à ne jamais perdre de vue l'endroit d'où on vient.
Nós passamos a nossa vida e a desconstruir. Nós não fazemos outra coisa que desconstruir, porque a capacidade construtiva da humanidade já atingiu graus tão
que vous disiez cet homme, cet intellectuel, avant de décéder?
Eduardo Lourenço nous avait accordé cette interview il y a 7 ans, en 2013, et il nous disait que l'on passe notre vie à construire et à déconstruire, car la capacité de construire propre à l'humanité a atteint un sommet tellement fantastique, une puissance inouïe, que la seule issue envisageable pour les sociétés à l'avenir serait de réécrire des choses qui sont déjà écrites, des mythes qui existent déjà. Néanmoins, disait-il, nous avons la capacité extraordinaire de voir d'autres choses dans le présent et d'imaginer dans le futur, mais cette créativité et cette imagination ne doivent pas nous faire oublier nos racines, car quand on perd cela... On perd tout, disait cet homme intellectuel. L'ironie du destin, cette chose qui est si portugaise, a voulu que Eduardo Lourenço meure un jour férié, le 1er décembre, jour de la restauration de l'indépendance du Portugal, ce petit bout d'Europe occidentale dont il a su parler si pertinemment.
Alors, l'héritage d'Eduardo Lourenço est aussi quelque part français. Expliquez-nous cela.
Oui, comme je disais tout à l'heure, Philippe, il a passé une grande partie de sa vie en France. Il a été notamment enseignant à l'université à Nice entre 1960 et 1989. La crise de l'identité nationale, les thèmes liés à la portugalité étaient l'une de ses préoccupations principales, sans oublier son intérêt qui portait aux questions épineuses liées à l'histoire coloniale portugaise. Qui aurait été Eduardo Lourenço s'il n'avait pas vécu en France? La réponse de son éditrice et amie de longue date, Luísa Braz de Oliveira.
Porque todos os que estamos aqui muitos anos, ou noutro país, não é? Que partimos de um sítio, no fundo, pomos-nos sempre a questão, se um dia regressamos, como é que vimos? E foi uma pergunta que eu lhe fiz, se pode voltar de onde se partiu? E ele respondeu-me que podemos, mas que voltamos a um outro. Tudo continuou e o professor Eduardo Lourenço refletiu muito sobre o tempo e disse-me no final dessa entrevista que nunca se regressa a nada, no fundo, porque a essência do tempo...
Alors, on écoutait longuement Luísa Braz de Oliveira. Résumez-nous ce qu'elle disait.
Alors, elle était éditrice et amie de longue date d'Eduardo Lourenço. Et elle nous dit qu'elle a demandé un jour à Eduardo Lourenço s'il était possible de retourner là d'où on vient. Il aurait répondu que oui, mais que lors de ce retour, la personne s'est transformée et est évidemment différente. Il pensait beaucoup à la thématique du temps et au fait que ce retour n'existe peut-être pas, car l'essence du temps dans lequel on vit est de ne pas avoir de retour. Ce retour qui ferait partie d'un voyage, disait-il, et ce qu'il y ait de plus important que le point d'arrivée, c'était pour Édouard Drolien ce voyage. Cette deuxième patrie, la France, l'avait fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2000. Il lui a remis la Légion d'honneur en 2002. Il a écrit et publié plusieurs de ses ouvrages en français. Cette semaine, le Portugal a dit adieu à un Portugais de génie. Édouard Drolien nous laisse surtout une œuvre et une vision qui nous permettent de lire et de comprendre le Portugal, mais aussi l'Europe et le monde dans leur dimension d'idées, de projets et de destin.
Voilà pour le décès donc d'un Portugais très francophile, finalement. Merci à vous, Lydia Anjos, de la rédaction portugaise de RFI. C'était Accent du Monde, avec des sujets qu'on n'entend nulle part ailleurs. Merci pour cet éclairage, sur ce qu'il y a donc à écouter sur nos différentes antennes. À retrouver également sur les différents sites internet des rédactions du Monde de Radio France Internationale.